Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, lundi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi de commentaires. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur deux programmes culturels tels que le magazine culturel suivi par Apprendre le brassa indonésien. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous et à toutes. Voici le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Le 17 octobre est célébré comme la journée mondiale de l'alimentation qui a été déterminée par l'Organisation des Nations Unies. Par coïncidence, le 18 octobre 2016 est la dernière limite pour le gouvernement à publier des règlements en conformité avec le mandat de la loi numéro 33 de 2014 sur la garantie du produit halal. Le directeur exécutif de Indonesia Halal Watch, Ihsan Abdullah, a déclaré dimanche à Jakarta que l'élan de la journée mondiale de l'alimentation du 17 octobre devait être le moment pour l'Indonésie d'affirmer et engager la nécessité d'assurer la disponibilité de la nourriture et des produits qui sont sûrs, sains et halal. Selon Ihsan Abdullah, l'Indonésie est l'un des États membres des Nations Unies le plus développé par rapport aux autres membres de l'Organisation des Nations Unies. Parce que l'Indonésie a eu la loi sur la garantie du produit halal. C'est une loi qui peut augmenter la compétitivité de l'Indonésie dans le domaine du commerce international. Le règlement de l'Indonésie soutient fortement la compétitivité dans l'industrie et la culture car l'Indonésie va importer des aliments et des produits qui sont clairs sur le statut halal. La Chambre de commerce et l'industrie Kadin soutient la reprise des exportations indonésiennes qui est marquée par l'augmentation de la valeur de la transaction à Trade Expo Indonesia 2016. Le président du comité de développement des exportations de Kadin d'Indonésie, Khalid Tojono, a dit le dimanche que cela a été une bonne chance d'être un point tournant car les exportations indonésiennes ont baissé depuis longtemps. La valeur de la transaction à Trade Expo Indonesia 2016 jusqu'à dimanche matin a atteint plus de 974 millions de dollars américains ou 12,7 trillions de roupias, en hausse de 7,2% par rapport à l'année dernière. Anito Juono a souligné que l'élan doit être maintenu et défendu pour toutes les parties, les hommes d'affaires et le gouvernement. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères pour le développement de la coopération de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, la diplomatie économique et les droits de l'homme, Mme Joanna Ronecka, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, et a déclaré que le président polonais visiterait l'Indonésie. La réunion bilatérale a été réalisée en marge de la 20e réunion ministérielle de l'Union européenne, ASEAN, à Bangkok, la Thaïlande, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères le samedi. Selon la ministre Veronica, les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Pologne ont très bien établi avec la tendance du commerce étant également positive. Pour la Pologne, l'Indonésie est l'un des partenaires stratégiques en Asie. Pour renforcer la coopération bilatérale avec l'Indonésie, le président de la Pologne fera une visite en Indonésie en 2017. On espère que cette visite est accompagnée d'une délégation d'affaires de la Pologne. Au cours de la réunion, les gouvernements des deux pays ont convenu de l'importance d'améliorer la connectivité, y compris la coopération entre la compagnie aérienne indonésienne et la compagnie aérienne polonaise, telles que Garuda et LotPolis Airlines. La coopération entre la compagnie aérienne produira un itinéraire de vol direct de Varsovie à Jakarta ou Denpasar. Ambassadeur d'Indonésie en France, Hot Mangaraja MP Panja, a admis que la France était un partenaire stratégique en Europe depuis 2011 et sans aucun doute devenu un pays important pour l'Indonésie en avenir. L'ambassadeur Hot Mangaraja MP Panjaitan a déclaré à la réception diplomatique tenue pour commémorer le 71e anniversaire au pavillon d'Opin, Paris. Le responsable socio-culturel de l'ambassade d'Indonésie à Paris, Hendry Kacili, cité par Antara, a déclaré dimanche que la réception diplomatique est une série de festivals indonésiens tenus au pavillon d'Opin pendant 3 jours depuis vendredi à dimanche. Il a dit que l'Indonésie et l'Union européenne ont commencé des négociations vers le partenariat économique global de l'accord des FTA cette année. Il est sûr que les deux pays peuvent résoudre la diminution des obstacles dans le commerce. Un bras de la communauté des affaires de la France à l'Indonésie en avril reflète un engagement à favoriser et à renforcer les liens économiques bilatéraux. Il a souligné que les deux pays ont été coopérés dans le domaine d'intérêts communs tels que le commerce et l'investissement, l'éducation, la défense sociale et de promotion culturelle et la lutte contre le changement climatique. Le ministre de la Communication et de la Technologie d'Information, Rudi Antara, cible que toute l'Indonésie sera connectée à grande vitesse du réseau de communication des données broadband en 2017. C'est ce qu'a affirmé Rudi Antara lors de la visite au nord de Kayong, Kalimantan Ouest récemment. Selon lui, si Kalimantan veut se connecter bien au réseau d'Internet, il cible l'installation de base Transceiver Station ou BTS dans 75 emplacements à partir du Kalimantan occidental à l'est de Kalimantan, de sorte que toutes les régions de Kalimantan peuvent se connecter via BTS. Pour Kalimantan occidental, 30 emplacements de BTS seront construits dans les villages qui sont en dehors et adjacents à Kalimantan ouest, en construisant cette année de Palapa, toute Kalimantan occidentale et l'Indonésie peuvent se connecter à l'Internet à la fin de 2017. Le ministre Rudi Antara a dit qu'afin de maximiser les programmes d'amélioration du réseau, il ira aux régions les plus éloignées à l'ouest de Kalimantan. Le dernier, le gouvernement indonésien et le gouvernement français ont déterminé à coopérer pour améliorer les efforts pour la paix mondiale, comme indiqué dans un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères le samedi. L'engagement a été transmis par le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi à le ministre français des Affaires européennes Harlem Désir lors d'une rencontre bilatérale en marge de la 20e réunion ministérielle Union européenne-ASEAN a eu lieu à Bangkok en Thaïlande. Comme l'un de l'engagement de l'Indonésie dans le domaine des missions de maintien de la paix dans le monde, l'Indonésie participera à la réunion de High Level Ministerial Event on Peacekeeping in a Francophone Environment lancée par le gouvernement français. Cette réunion se tiendra du 26 au 27 octobre 2016 à Paris. La France discutera des missions des pays et sa relation avec le développement des communications de langue française pour le personnel des Nations Unies et un contingent de missions de pays. L'Indonésie et la France ont disposé le mécanisme bilatéral sous la forme du forum consultatif bilatéral au niveau ministériel, entre autres le dialogue sur la défense indonésien-français, le groupe de travail conjoint pour l'enseignement supérieur, le tourisme, l'énergie. Ces auditeurs, c'était notre journal aujourd'hui.
Salam Langan, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre Le retour de Jonan et Archandra dans le cabinet de travail. Il a seulement été des années de mandat que le président Joko Widodo a remanié plusieurs fois la structure et le personnel du cabinet de travail. Plus récemment, Jokowi a installé Ignatius Jonan en tant que ministre de l'énergie et des ressources minérales et Archandra comme vice-ministre de l'énergie et des ressources minérales. Vendredi après-midi, 14 octobre 2016. Près de 2 mois, la position du ministre a été tenue par le ministre de coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, comme ministre par intérim. L'inauguration de Jonan et Archandra est le troisième remaniement effectué par le président Joko Widodo. Plus tôt, le cabinet a d'abord été remanié le 12 août 2015. Tout le second remaniement a eu lieu le 27 juillet 2016. Ignatius Jonan est l'ancien ministre des Transports qui a été rejeté dans le second remaniement du cabinet de travail de Joko Widodo à la fin de juillet. Pendant ce temps, Archandra est l'ancien ministre de l'énergie et des ressources minérales et SDM qui a été inauguré par le président Joko Widodo dans le second remaniement du cabinet de travail. Trois. En seulement 20 jours au pouvoir, Joko Widodo a rejeté Archandra en raison des questions de citoyenneté. Il était connu pour avoir un passeport américain. L'inauguration soudaine de Jonan et d'Archandra en tant que ministre et vice-ministre de l'énergie et des ressources minérales soulève beaucoup de commentaires parmi les politiciens, les observateurs et le public. Certains croient que l'inauguration de Jonan et d'Archandra est un peu forcée. Par ailleurs, l'ancien ministre de l'énergie et des ressources minérales a été rejeté en raison de l'affaire de la citoyenneté. Cependant, certains ont fait valoir que le duo de Jonan et Archandra est approprié parce que le secteur de l'énergie est très sensible, a beaucoup d'intérêt de sorte qu'il existe des dirigeants décisifs qui sont en mesure de prendre l'acte décisif. Ignatius Jonan est connu pour avoir des expériences dans la bureaucratie et de la gestion. En devenant ministre des Transports ou plus précisément en devenant président directeur de PT Kereta Api, tandis que Archandra Tahar a une longue feuille de route dans les ressources énergétiques et minérales. Il est prévu que les deux, Jonan et Archandra, peuvent devenir un bon partenaire. Quelle que soit l'opinion émergente parmi la société, le duo de Jonan et Archandra devrait renforcer le cabinet de travail de Joko Widodo et Yusuf Kalla. En outre, le président Joko Widodo considère que Jonan et Archandra ont la compétence et pouvaient résoudre les problèmes existants dans le domaine de l'énergie et des ressources minérales, ainsi que d'être une bonne équipe pour gérer le secteur du pétrole et du gaz dans le pays. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici notre programme quotidien aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition du 17 octobre. On va commencer le 17 octobre 1933. Einstein se réfugie aux États-Unis. Le physicien allemand est contraint de quitter l'Allemagne nazie suite à la mise à sac de sa maison en début d'année. De confession israélite, il s'est engagé dans la bataille contre le nazisme dès l'année 1914. Avec l'avènement d'Hitler, Einstein décide de fuir vers les États-Unis et accepte le poste qu'on lui a offert à l'Institute for Advanced Study de Princeton dans la New Jersey. Il prendra la nationalité américaine en 1940. On change le 17 octobre 1945. Perón revient sur les vents de la scène en Argentine. Des milliers d'ouvriers appelés les décamisados sans chemise et des syndicats manifestent leur soutien à l'ancien ministre du Travail, Juan Domingo Perón. Quelques mois plus tôt, il avait été démis de ses fonctions et est arrêté sous la pression des organisations patronales et de l'ambassade des États-Unis qui voyait d'un mauvais oeil l'application de ces mesures sociales. En sa révolte, le peuple argentin exprime l'entière confiance qu'il voue en cet ancien colonel qui a participé au coup d'État de 1941. Perón sera élu démocratiquement à la présidence de la République en 1946 et instaurera une dictature militaire jusqu'en 1955. On termine le 17 octobre 1973. Les pays arabes ont fait l'embargo pétrolier contre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le 17 octobre 1973, les producteurs de pétrole des pays arabes commencent un embargo pétrolier contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays qui vendent le pétrole à l'Israël. Cela se fait face que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fourni un aide militaire massif à l'Israël dans une guerre entre ce régime avec la Syrie et l'Égypte qui a commencé le 6 octobre 1973. Le lendemain de l'annonce de l'augmentation du prix du pétrole par l'OPEP, les pays arabes ont annoncé l'embargo contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël. En conséquence, les prix du pétrole deviennent plus élevés. Les pays occidentaux avaient de grandes difficultés à la suite de cet embargo et cette période est appelée choc pétrolier. En mars 1974, cet embargo a été retiré après le secrétaire d'État américain Henry Kissinger a réussi de négocier le cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. Cet incident prouvait que les pays réels du Moyen-Orient ont une arme puissante pour faire pression sur l'Amérique et l'Occident en général afin de ne pas continuer à protéger Israël. Ces auditeurs du 10, c'était notre rubrique L'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition le 17 octobre. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Salut Melantin, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre, l'Indonésie obtient l'appréciation mondiale sur la manipulation du terrorisme. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, est déterminé à surmonter le terrorisme dans le pays par le biais social, culturel, religieux, de sécurité et d'autres approches. Le gouvernement indonésien invite également la communauté internationale à surmonter ensemble le problème du terrorisme. Le sérieux de l'Indonésie par le biais des efforts de déradicalisation et de contre-terrorisme a reçu l'appréciation au cours de la 21e réunion ministérielle Union européenne-ASEAN à Bangkok en Thaïlande récemment. Antara, l'Agence de nouvelles indonésienne a rapporté que à l'occasion, le ministre des Affaires étrangères indonésien Retno Marsudi a dit la coopération en partenariat ASEAN-Union européenne est importante d'être renforcée, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme à travers une coopération concrète entre les deux parties. Dans la 21e réunion ministérielle Union européenne-ASEAN, la ministre Retno Marsudi a mené une discussion sur la coopération pour faire face aux défis de sécurité mondiaux concernant la lutte contre le terrorisme, de la déradicalisation, la migration et la traite des êtres humains. La ministre Retno a déclaré que dans la lutte contre le terrorisme, l'Indonésie souligne trois points principaux, à savoir le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, le renforcement de la capacité de lutte de l'unité antiterroriste et la prévention du terrorisme cybernétique, et l'intégration d'approches douces de puissance grâce à l'éducation, le rôle des femmes, de la société civile ainsi que des organisations communautaires et religieuses. La politique de lutte contre le terrorisme de l'Indonésie, délivrée par le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a été très appréciée par les États membres de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de la politique de soft power qui met l'accent sur les valeurs de tolérance et de modération dans la société. Certains pays de l'Union européenne espèrent que l'avenir, il y aura une coopération accrue dans la diffusion de ces valeurs par les coopérations bilatérales ainsi que régionales. Auparavant, l'Indonésie a également gagné des louanges pour sa gestion du terrorisme, de dirigeants des pays membres de l'ASEAN à la réunion du sommet de l'ASEAN au Laos. Comme cité par l'agence Antara, au cours de la réunion, le président Joko Widodo a également exprimé son point de vue sur le traitement du terrorisme et a révélé que l'Indonésie priorise la main douce à travers des approches religieuses et culturelles. Pendant, il a également affirmé que le gouvernement indonésien appliquera une action en justice si la procédure ne fait pas les auteurs d'actes terroristes de dissuasion. C'était la mise au point pour ce soir.
Le directeur exécutif de Indonesia Halal Watch, Ihsan Abdullah, a déclaré dimanche à Jakarta que l'élan de la Journée mondiale de l'alimentation du 17 octobre devait être le moment pour l'Indonésie d'affirmer et engager la nécessité d'assurer la disponibilité de la nourriture et des produits qui sont sûrs, sains et halal. Selon Ihsan Abdullah, l'Indonésie est l'un des États membres des Nations Unies le plus développé par rapport aux autres membres de l'Organisation des Nations Unies. Parce que l'Indonésie a eu la loi sur la garantie de produits halal. C'est une loi qui porte monter la compétitivité de l'Indonésie dans le domaine du commerce international. Le règlement de l'Indonésie soutient fortement la compétitivité dans l'industrie et la culture car l'Indonésie va importer des aliments et des produits qui sont clairs sur le statut halal. La Chambre de commerce et l'industrie Kadin soutient la reprise des exportations indonésiennes qui est marquée par l'augmentation de la valeur de la transaction à Trade Expo Indonesia 2016. Le président du comité de développement des exportations de Kadin d'Indonésie, Khalid Tojuono, a dit le dimanche que cela était une bonne chance d'être un point tournant car les exportations indonésiennes ont baissé depuis longtemps. La valeur de la transaction à Trade Expo Indonesia 2016 jusqu'à dimanche matin a atteint plus de 974 millions de dollars américains ou 12,7 trillions de roupias, en hausse de 7,2% par rapport à l'année dernière. Anito Juono a souligné que l'élan doit être maintenu et défendu pour toutes les parties, les hommes d'affaires et le gouvernement. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères pour le développement de la coopération de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, la diplomatie économique et les droits de l'homme, Mme Joanna Ronecka, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, et a déclaré que le président polonais visiterait l'Indonésie. La réunion bilatérale a été réalisée en marge de la 20e réunion ministérielle de l'Union européenne, ASEAN, à Bangkok, la Thaïlande, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères le samedi. Selon la ministre Ronecka, les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Pologne ont très bien établi avec la tendance du commerce étant également positive. Pour la Pologne, l'Indonésie est l'un des partenaires stratégiques en Asie. Pour renforcer la coopération bilatérale avec l'Indonésie, le président de la Pologne fera une visite en Indonésie en 2017. On espère que cette visite est accompagnée d'une délégation d'affaires de la Pologne. Au cours de la réunion, les gouvernements des deux pays ont convenu de l'importance d'améliorer la connectivité, y compris la coopération entre la compagnie aérienne indonésienne et la compagnie aérienne polonaise, telles que Garuda et Lot Polish Airlines. La coopération entre la compagnie aérienne produira un itinéraire de vol direct de Varsovie à Jakarta ou Denpasar. Ambassadeur d'Indonésie en France, Hot Mangaraja MP Panja, a admis que la France était un partenaire stratégique en Europe depuis 2011 et sans aucun doute devenu un pays important pour l'Indonésie en avenir. L'ambassadeur Hot Mangaraja MP Panjaitan a déclaré à la réception diplomatique tenue pour commémorer le 71e anniversaire au pavillon d'Opin, Paris. Le responsable socio-culturel de l'ambassade d'Indonésie à Paris, Henry Kacili, cité par Antara, a déclaré dimanche que la réception diplomatique est une série de festivals indonésiens tenus au pavillon d'Opin pendant 3 jours depuis vendredi à dimanche. Il a dit que l'Indonésie et l'Union européenne ont commencé des négociations vers le partenariat économique global de l'accord des FTA cette année. Il est sûr que les deux pays peuvent résoudre la diminution des obstacles dans le commerce. Un bras de la communauté des affaires de la France à l'Indonésie en avril reflète un engagement à favoriser à renforcer les liens économiques bilatéraux. Il a souligné que les deux pays ont été coopérés dans le domaine d'intérêts communs tels que le commerce et l'investissement, l'éducation, la défense sociale et de promotion culturelle et la lutte contre le changement climatique. Le ministre de la Communication et de la Technologie d'Information, Rudi Antara, cible que toute l'Indonésie sera connectée à grande vitesse du réseau de communication des données broadband en 2017. C'est ce qu'a affirmé Rudi Antara lors de la visite au nord de Kayon, Kalimantan Ouest, récemment. Selon lui, si Kalimantan veut se connecter bien au réseau d'Internet, il cible l'installation de Bass Transceiver Station, ou BTS, dans 75 emplacements à partir du Kalimantan occidental à l'est de Kalimantan, de sorte que toutes les régions de Kalimantan peuvent se connecter via BTS. Pour Kalimantan occidental, 30 emplacements de BTS seront construits dans les villages qui sont en dehors et adjacents à Kalimantan ouest, en construisant cette année de Palapa, toute Kalimantan occidental et l'Indonésie peuvent se connecter à l'Internet à la fin de 2017. Le ministre Rudi Antara a dit qu'afin de maximiser les programmes d'amélioration du réseau, il ira aux régions les plus éloignées à l'ouest de Kalimantan. Le dernier, le gouvernement indonésien et le gouvernement français ont déterminé à coopérer pour améliorer les efforts pour la paix mondiale, comme indiqué dans un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères le samedi. L'engagement a été transmis par le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi à le ministre français des Affaires européennes Harlem Désir lors d'une rencontre bilatérale en marge de la 20e réunion ministérielle Union européenne-ASEAN a eu lieu à Bangkok en Thaïlande. Comme l'un de l'engagement de l'Indonésie dans le domaine des missions de maintien de la paix dans le monde, l'Indonésie participera à la réunion de High Level Ministerial Event on Peacekeeping in a Francophone Environment lancée par le gouvernement français. Cette réunion se tiendra du 26 au 27 octobre 2016 à Paris. La France discutera des missions des pays et sa relation avec le développement des communications de langue française pour le personnel des Nations Unies et un contingent de missions de pays. L'Indonésie et la France ont disposé le mécanisme bilatéral sous la forme du forum consultatif bilatéral au niveau ministériel, entre autres le dialogue sur la défense indonésien-français, le groupe de travail conjoint pour l'enseignement supérieur, le tourisme, l'énergie. C'est auditeurs, c'était notre journal aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours Daniel Favreis qu'on vous propose à La Voix de l'Indonésie. Parce que maintenant, le magazine culturel est suivi par Apprendre le Bahasa Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, bienvenue dans le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cette fois, nous allons vous introduire l'un des jeux traditionnels de l'Indonésie, la toupie indonésienne gasing. L'Indonésie a divers jeux traditionnels, ce qui est toujours joué dans certaines régions, entre autres la toupie. Toutes les régions de l'Indonésie sont généralement familières avec les jeux, mais avec des thèmes différents. La communauté de Bolalang Mongondo, dans la province de Sulawesi du Nord, l'appelle Magasing ou Agasing. À Yogyakarta, on l'appelle Gangsingan et les gens de Kalimantan Est l'appellent Bagasing. La toupie est très connue en Indonésie et sa forme est différente dans chaque région. Il y en a en oval arrondi. Certaines sont en forme de cœur, de cône, cylindre. Elle est également en forme de soucoupe volante. Mais elle a l'écartation générale qui se compose de la tête, le corps et les jambes. Au pivot, fait de bois et à sa propre place à enrouler la corde. Pour la corde, certaines font de nylon et de l'écorce. En fait, pas trop difficile à jouer la toupie. Vous avez juste besoin de lier la toupie avec une corde, puis jeter sa rotation. Ce jeu peut être fait par des individus ou des équipes ayant des quantités variables. Gagner ou perdre est déterminé par la longueur d'un toupie sur son axe. Le jeu de toupie est joué par les adultes et les enfants, mais on ne sait pas encore l'origine de la toupie et comment elle répare dans l'Indonésie. Mais les gens dans la province de Riau croient que la toupie existe dans cette région depuis avant la coloniale néerlandaise et à Java West. Le jeu de toupie était connu avant l'indépendance et dans la province de Sulawesi du Nord. Elle a été connue dans les années 1930. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci de votre fidélité. À notre antenne, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici notre programme Apprendre l'indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est Upacara Hari Ulang Tahun RRI. Je répète, Upacara Hari Ulang Tahun RRI, ou en français, la cérémonie de l'anniversaire de RRI. Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et les expressions par rapport au thème aujourd'hui. Upacara, upacara, en français, la cérémonie. Hari ulang tahun, hari ulang tahun, en français, l'anniversaire. Terlambat, terlambat, en français, être en retard. Bangun, bangun, en français, se lever. Besok pagi, en français, demain matin. Ke-71, en français, la 71e. Berangkat, berangkat, en français, partir. Mulai, mulai, en français, commencer. Jam 6 pagi, en français, à 6h du matin. Jam 7 pagi, en français, à 7h du matin. Memakai, memakai. En français, porter. Seragam, seragam. En français, l'uniforme. Lupa, lupa. En français, oublier. Melihat, melihat. En français, voir. Pengumuman, pengumuman. En français, l'annonce. Biru, biru. En français, bleu. Penyulutan obor, penyulutan obor. En français, l'allumage de torche. Ditunggu, ditunggu. En français, attendre. Makan bersama, makan bersama. En français, le banquet. Tamu, tamu. En français, les invités. Luar negeri, luar negeri. En français, étranger ou bien étrangère. Pemenang, pemenang. En français, le gagnant. Quiz international, quiz international. En français, le quiz international. Baju tradisional, baju tradisional. En français, le vêtement traditionnel. Negara, negara. En français, le pays. Chers amis, maintenant on va mettre ces vocabulaires et les expressions dans une conversation intitulée Upacara Hari Ulang Tahun RRI ou en français La cérémonie de l'anniversaire de RRI. Et comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation entre Mary A et Nofi B au bureau. A. Nofi, besok kamu jangan terlambat bangun. Nofi, besok kamu jangan terlambat bangun. En français, Nofi, ne te lève pas trop tard demain. Besok, kita harus menghadiri upacara hari ulang tahun RRI yang ke-71. Besok pagi, kita harus menghadiri upacara hari ulang tahun RRI yang ke-71. En français, demain matin, nous devons assister à la cérémonie de la 71e anniversaire de RRI. Ya, besok pagi kita harus berangkat jam 6 pagi. Ya, besok pagi kita harus berangkat jam 6 pagi. En français, oui, nous devons partir à 6 heures du matin demain. Karena upacara mulai jam 7 pagi. Karena upacara mulai jam 7 pagi. En français, car la cérémonie commencera à 7 heures du matin. A. Besok kita pakai seragam apa? Besok kita pakai seragam apa? En français, quel uniforme portons-nous demain? Saya lupa. Saya lupa. En français, j'ai oublié. B. Besok kita harus memakai seragam biru. Besok kita harus memakai seragam biru. Nous portons l'uniforme bleu. Setelah upacara, ada acara penyulutan obor. Setelah upacara, ada acara penyulutan obor. En français, après la cérémonie, il y aura l'allumage de torche. A. Ya, itu adalah acara yang selalu ditunggu-tunggu. Ya, itu adalah acara yang selalu ditunggu-tunggu. En français, oui, c'est le moment qu'on attend toujours. B. Setelah itu, biasanya ada acara makan siang bersama. Setelah itu, biasanya ada acara makan siang bersama. En français, et puis d'habitude, il y aura le banquet. A. Upacara besok juga diikuti oleh tamu dari luar negeri. Upacara besok juga diikuti oleh tamu dari luar negeri. La cérémonie sera aussi assistée par les invités étrangers. Mereka adalah pemenang kuis internasional. Mereka adalah pemenang kuis internasional. En français, ils sont les gagnants du quiz international. Pada waktu upacara, mereka akan memakai baju tradisional negara masing-masing. Pada waktu upacara, mereka akan memakai baju tradisional negara masing-masing. En français, pendant la cérémonie, ils porteront des vêtements traditionnels représentant leur propre pays. A. Baiklah, besok pagi saya jemput kamu. Baiklah, besok pagi saya jemput kamu. En français, d'accord, je vais te chercher demain. Voilà cette édition du programme Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.
Dans un mettant divers ce moment, on fait la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, la voix de l'Indonésie de 80 de Mont, voici le magazine de musique édition de lundi. Comme chaque lundi, on vous présente des chansons au rythme de Kroncong. Et pour ce soir, avec le chanteur Sam Saimun. Bon, chers amis, avant de continuer notre rencontre, écoutez d'abord la chanson de rythme Kroncong intitulée Lukisan Malam, chantée par Sam Saimun.
Segala menghias alam, angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam. Ini sunyi dendam suasana alam dari jauh di tengah suara air mancur embun sejuk bagai sutera. Memandang kemesraan lukisan malam.
murni di hati memandang kemesraan lukisan malam.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson Lukisan Malam chantée par Sam Simon. Cette chanson décrit la belle soirée avec des ciels et le vent doux. Grâce au rythme si doux et la musique de crunchon classique, cette chanson pourrait emmener chacun qui l'attend de sentir ou voir le beau soir. Cette ancienne chanson, aux années 50, est chantée par Sam Simon, ayant la voix douce, et on dit qu'elle ressemble avec Nat King Cole, chanteur américain très connu. Chers amis, allez encore écouter la chanson suivante de Sam Simon intitulée Di Wajahmu Kulihat Bulan. Bonne écoute.
Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut keningan. Sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan.
Terjami sesangsong di wajahmu kulihat bulan rakong un garçon qui adore une belle fille. Dan sesangsong je vois la lune à votre visage. Elle rayonne l'ombre dans le cœur. Laisse-moi de chercher la paix chez elle. Voilà la parole ou le lyrique de chanson Di Wajahmu Kulihat Bulan. Chers amis, malgré chanter beaucoup de chansons rythme croncong, Sam Simon aime le genre pop, surtout pop Melayu. Il est né en 1924. Sa carrière est si bonne. Il s'est présenté souvent à la Radio République Indonésia. On peut aussi le placer comme compositeur Ismail Marzuki, Maladi, le maestro de Kroncong Gesang Uwaljina. Et vous savez, il a aussi gagné le prix dans quelques concours stars à Radio République Indonésia en 1951, 52 et 55. Chers amis, c'était le magazine de musique Roncong. Et avant de vous quitter, écoutez donc deux dernières chansons de Sam Saimun intitulées Pujian Kalbu et Nyanyian Sunyi. Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Hati rasa puas melihat wajahmu nan rupawan mengikat asmara pengharapan hidupku. Dengan tingkah laku kesederhanaan yang kau pakai menambah kuatnya pengharapan suci. Budi bahasamu sangatlah halus dan berisi, dapat meneguhkan asmara nan suci. Hati rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kabuku. Rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kabuku.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Saraya bintang cemerlang hilang gemilang hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan. sangat merindukan. Di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang hilang gemilang, hatiku rindu. Hasrat mengenangkan hatiku yang hasrat merindukan. Di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang hilang gemilang, hatiku rindu.
Senja tiba di ambang, riuh rendah pasar Tanah Abang. Simpang siur dara dan bujang, lalu lintas kacau dan terhalang. Tanpa tujuan yang tertentu, bujang dara keluar pintu dengan harapan jumpa satu penawar asmara dirindu. Dengan gaya seorang gentleman, tampan nian bagai Superman, hilir mudik tanpa tujuan melagu sang.
Ces amis, il y en a des différents tous les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.